Shavuot Tov, Shavuot Tov. Shalom à tous. J'espère que tout le monde est en bonne santé, que tout va bien, que mi-ayom, on n'ait que de bonnes nouvelles pour le peuple d'Israël. On va continuer le Kuzari. On est arrivé au Samehé. On y va. On est toujours dans le premier Mahamar, toujours dans le discours entre le Haver et le roi des Khazars, au sujet de la pensée de Aristote par rapport au Kadmut Haolam, par rapport à ce que le monde a été créé ou le monde a toujours existé. Alors regardez au Samehé. Amar et Haver. Ken. Ah, Sira, deux secondes. Sa mère d'Alet. Amar Akuzari. Vechize Mechayev Shelo Naamin, l'Aristo Bechochmato. Et est-ce que parce que nous, on a la tradition, quoi, vous les Juifs, vous avez la tradition que le monde a été créé, que ça nous oblige à ne pas croire Aristote dans sa connaissance, dans sa sagesse, dans son intelligence, que lui a affirmé que le monde a toujours existé, que le monde n'a pas été créé ex nihilo. Et donc le rabbin répond, Amar et Haver, Ken, en effet, oui. Mipne shi itriach et tzichlo marshavto, bavour shelo aita biyado kabbalah. Alors on y va. Parce que lui, Aristote, qu'est-ce qu'il a fait? Itriach et tzichlo, il a énormément travaillé son intellect et ses pensées du fait que lui, il n'y avait pas de kabbalah. C'est quoi kabbalah? Alors, le sens simple de kabbalah, attendez, je vais voir tout le monde. Le sens simple de Kabbalah, c'est quoi? C'est réception. Qu'est-ce que ça veut dire, réception? Réception, ça veut dire qu'on a reçu de quelqu'un. Il y a une tradition, la massorette. C'est quoi la massorette? C'est le fait, justement, on appelle ça la massorette, la tradition. Massorette, c'est on est mosser, on transmet. Qui transmet? Ben, le maître, il transmet à son élève. Et le maître, de qui il a reçu? Ben, de son maître, qui a reçu de son maître, qui a reçu de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, je vous rappelle comment la Torah s'est transmise, justement, c'est que Moshe, il entendait d'Akadosh Baruch Hu, et il transmettait ça à Aaron, il transmettait ça encore une deuxième fois à Yoshua en présence de Aaron, aux enfants de Aaron en présence de Yoshua et Aaron, aux anciens d'Israël en présence de Aaron, Yoshua et les enfants de Aaron, et enfin au peuple d'Israël. Et ensuite, de génération en génération, il y a une transmission de Rav et les Talmides, de maître à élève. C'est-à-dire, maintenant, très important que lorsque tu étudies avec le Rav, tu veux savoir de qui il a reçu, de qui il a reçu la tradition. Il y a des. Par exemple, nous, on a étudié où est-ce qu'on a étudié, dans une yeshiva, avec des rabbanim qui ont reçu du Rav Zihuda Kouk, qui ont reçu. Que lui a même a reçu du Rav Ruh, que lui a reçu du Nativ et du Hafetz Chaim, que de génération jusqu'au Gaon de Vilna, jusqu'au Maharal de Prague et jusqu'à Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire, donc c'est une tradition, une chochelette, une chaîne de transmission de la Torah. C'est-à-dire, maintenant ça c'est le sens simple de Kabbalah. Kabbalah, Kavana, réception de l'enseignement. C'est-à-dire que on parle d'un enseignement qui est reçu et pas d'un enseignement qui est trouvé, inventé. Ça commence par une réception. Et le sérel, le cassement de tête que les sages vont avoir, c'est pour comprendre quel est l'enseignement reçu. Ça va? Donc, premier mouvan, première compréhension du mot Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire la tradition, la réception, etc. Or, nous sommes dans l'époque entre Pessah et Shavuot, où on est en train d'étudier les Pirkei Avot. Et comment les Pirkei Avot commencent? Moshe Kibel Torah Misinai. C'est-à-dire Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe a reçu la Torah Misinai. Misinai. Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe a reçu la Torah du Sinai. Maintenant, on est clair que ce n'est pas le Sinai qui a donné la Torah à Moshe. Alors, à la place de dire Moshe Kibel Torah mi Sinai, du mont Sinaï, c'est comme si Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, le Maharal de Prague fait une remarque extraordinaire qui va dire on aurait dû dire Be Sinai, on aurait dit au mont Sinaï. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï. On n'a pas marqué ça. Il y a marqué, en effet, Moshe Kibel Torah, mi, de provenance. Le de, le mi qui marque la provenance. Il a reçu la Torah du Mont Sinaï. Et là, le Maharal de Prague d'expliquer que ici, Moshe, de quelle manière il a reçu la Torah? C'est la prophétie de Moshe. Maintenant, la prophétie de Moshe, elle était du niveau que nous avions, que l'âme Israël avait, que Moshe avait, lorsqu'on s'est tenu au Sinaï. Lorsqu'on était au Sinaï. C'est-à-dire qu'on parle, Moshe a reçu la Torah du niveau du Sinaï. C'est-à-dire que la parole prophétique est descendue à un certain niveau au Sinaï, le niveau spirituel qu'on avait lorsqu'on était tenu au Sinaï, et c'était cette Torah qu'il a reçue, Moshe. De manière imaginaire, si Moshe avait un plus haut niveau spirituel, alors ça aurait été une Torah différente. Et inversement, s'il y avait un plus bas niveau spirituel, ça aurait été une Torah aussi différente. On a reçu la Torah du niveau qu'on a eu au Sinaï. Un niveau particulier, c'est le Sinaï, que nous avions, un niveau d'âme particulier, un niveau de spiritualité particulière, qui nous a permis justement de recevoir l'esprit prophétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Kibel Torah. Kibel, ça veut dire recevoir, mais prophétiquement. Parce que la Torah que Moshe a reçue, c'est prophétiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas une transmission de rave à élève, on répète des mêmes mots, on reçoit des livres dans lesquels sont écrits, on transmet des livres écrits. Et là, c'est la prophétie du roi HaKodesh qui est transmise de génération en génération. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsqu'on va écouter le rave, c'est-à-dire, c'est parce qu'il est rattaché à cet esprit prophétique. Alors, plusieurs niveaux prophétiques. Le plus bas niveau prophétique, c'est l'intuition, juste un plus développé, ça va être le roi HaKodesh des Talmidei Chachamim, l'esprit prophétique du Talmid Chacham, du sage de la Torah. C'est-à-dire que cette Torah, elle est redevenue prophétique grâce au Rav. Le Rav, il arrive à réfléchir ça au niveau prophétique. Donc, ce qui veut dire... Ouais.
Mais est-ce qu'on ne peut pas relier justement les deux explications que la Massorette, la tradition, justement, ça, c'est une expression de ce roi Kodesh, quelque part, de cette prophétie, non? Parce qu'à travers la nation d'Israël, ce qui va prendre force de loi par la coutume, bah, finalement, ça va...
Le problème, la Massorette, c'est que la première des choses qu'on va dire, et c'est fait très attention parce que c'est un argument contre le Kuzari, il y a beaucoup de rabbins qui expliquent, le Rabbi Yehuda Levi va dire d'où est-ce qu'on sait que la prophétie est vraie? C'est parce que justement, on a reçu ça au Sinaï, de génération en génération, on s'est transmis la prophétie. Et forcément, on était des millions qui ont transmis, qui avaient entendu la voix d'Hachem. On ne peut pas mentir à des millions de personnes. Et de génération en génération, on a raconté cette histoire. Maintenant, il y a la première des choses qu'on peut dire contre ça, c'est qu'il n'y a pas de perte. Si c'est de génération en génération que Moshe a dit et de génération on a transmis un message, c'est sûr qu'il y a des pertes, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui manque. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de d'erreur.
Mais justement, mais est-ce que cette perte, elle est sécurisée par la preuve?
On dit qu'il n'y a pas de perte. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas le Talmid, il ne va pas répéter juste une phrase que le Rav a dit, ou des mots, ou des lettres. C'est-à-dire que c'est une transmission de Ruach, une transmission d'esprit. À un moment donné, grâce à la transmission, l'enseignement, par exemple, je te donne le Rav Odi Yosef, le Rav Odi Yosef qui a appris de ses maîtres, qui a reçu de ses maîtres, et qui a réétudié la Torah, et que les maîtres lui ont donné les bases qu'il connaissait de Torah, et l'esprit, et qui étaient eux-mêmes inspirés par l'esprit prophétique, du Talmud Ruach HaKodesh, lui-même, il a développé le Ruach HaKodesh. Lui-même, il a été contaminé par le roi HaKodesh de pouvoir, lui, en plus, continuer la Torah et développer la Torah. Et la Torah, elle est passée par lui.
Est-ce que, par exemple, quand il y a une marloquette, au départ, la marloquette, elle est bien née d'un manquement. Quelque chose, il y a eu un problème au niveau de la transmission. Elou et Elou, Vamrou, ils ont pris un kivoun. Parce que chaque...
Et comment? Quand on parle de marloquette, on dit Elou ve Elou divrei Elokim Chaim. Hachem, il a dû céder deux mêmes choses. Que ça et ça, c'est la vérité. Sinon, on ne veut pas.
Non, d'accord, mais ça s'est dévoilé grâce à ce manque.
La moitié de la Gemara. S'il y a une partie de la Gemara qui n'est pas la halakha, et donc ça veut dire que ce serait l'erreur. Non. Tout ce qui est dit par nos Tanaïm et nos Amoraïm, il dévoile la Torah. Elohim Chaim, il dévoile les paroles du Dieu vivant.
Mais c'est grâce au manquement. C'est ça que je veux dire. C'est que grâce à ce manquement, quelque part, dans la transmission, est né quelque chose de nouveau, en fait.
Non, il n'y a pas de. C'est pas du manque. C'est. Non. Bet Shammai et Bet Hillel, il dévoile deux parties qui sont vraies. Moshe Rabbeinu, un seul homme, il était capable de voir toutes les facettes. Tu vois, il n'y a pas d'erreur, ou c'est peut-être ça, ou c'est peut-être. Les seuls, il y a des moments où on ne sait pas. Non. Rambam, il va dire, on ne sait pas ce que c'est les Tkiyat Shofar, c'est quoi une Tkiya. Alors on fait trois Tkiyas, on fait toutes les chitotes. Là, hein, on dit exactement, là, on ne sait pas. C'est-à-dire, mais ça, c'est un endroit dans toute la Torah hein, où on te dit, là, on ne sait pas. Donc, pour faire tout, on fait tout. C'est-à-dire, ou par exemple, je te donne un exemple. Les gens à la Yeshiva, ils pensent les tefillines de Rabbeinu Tam et les tefillines de Rashi. C'est-à-dire, donc c'est très, très contemporain, c'est Rashi, mais quoi? Et au Sinaï, comment c'était? Les Mekoubalim, ils disent, mais ce n'est pas une marloquette. Il faut mettre les deux. C'est deux manières de dévoiler la mitzvah des tefillines. Il faut mettre Erashi et Rabbeinu Tam. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Parce que c'est dévoiler des divins de cette manière et de cette manière. Maintenant, il y a des actes, tu ne peux pas faire les deux. Quand Bet Shammai te dit ça à sourd et quand Bet Hillel te dit c'est moutard, au niveau de l'acte, alors Hachem, lui, nous a donné de quelle manière dévoiler sa volonté. Selon le Rov, selon la majorité. Mais là aussi, on continue de dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans la Gemara qu'on étudie, on veut savoir ce que dit Bet Shammai, on veut savoir ce que dit Bet Hillel. C'est pas juste la halakha. On veut avoir les connaissances du roi HaKodesh, à tel point qu'on dira qu'à la fin des temps, à chaque fois le Rav Cherki dit, on ne connaît pas cette source qui dit ça. On dit que la halakha sera fixée comme Bet Shammai. Ça veut dire que c'est Emet. C'est un émet, c'est une vérité qui ne peut pas se dévoiler pour l'instant, mais c'est une vérité. C'est une vérité, c'est Torah. En fait, c'est très important. C'est-à-dire que même le roi HaKodesh, on parle du roi HaKodesh de Beit Shammai et du roi HaKodesh de Beit Hillel. C'est-à-dire qu'ils ont eux aussi le roi HaKodesh, c'est-à-dire qu'ils dévoilent le divin. Maintenant, là, en arabe, tu ne peux pas soit faire comme ça ou soit là. Tu ne peux pas faire les deux actes en même temps les mêmes. L'arabe, elle était fixée comme Beit Hillel. Peut-être à la fin des temps, ça sera comme Beit Shammai. Comment ça change? Parce que ça aussi, ça appartient au Emet, d'Ivrei Elokim Chaim, c'est les paroles du Dieu vivant, mais qui ne se dévoilent pas maintenant. Mais le point commun de tous, tous dévoilent Torah. Torah, qu'est-ce qu'on a dit Torah? Rappelez-vous, ça c'est la base. Ora'a. Torah, c'est les mots Ora'a Mina Shamaim. L'enseignement de l'au-delà. Tout. C'est Torah, c'est l'enseignement de la Torah. C'est l'enseignement de l'au-delà, de Shamaïm, Sham, 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 là-bas, 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 l'au-delà. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que tout est Roi HaKodesh. Si ce n'est pas du Roi HaKodesh, alors ce n'est pas Torah. Donc, c'est sûr, ça commence qu'on reçoit la sagesse et avec, et maintenant on y va, l'intellect, le Sehel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'analyser, de comprendre ce qui a été reçu. Tandis que Aristote, ce n'est pas ça. Aristote, et il y a des avantages et des inconvénients, Aristote et les philosophes, hein, et les scientifiques d'aujourd'hui, commencent de zéro. C'est de eux vers le Emet. De eux vers la vérité. De eux vers la Metziout. C'est du bas vers le haut. C'est de l'homme, de la nature, vers les connaissances... Ils veulent atteindre même les connaissances divines si d'après le divin existe. Donc, c'est de eux vers la vérité. Nous, on a reçu la vérité. C'est différent. C'est totalement différent.
J'ai juste une petite remarque par rapport à la transmission de génération. Est-ce que justement le roi HaKodesh qui est transmis, c'est justement pour que le tzaddik adapte ce roi HaKodesh à sa koufa, à son époque?
Il va y avoir une évolution, il y a une évolution énorme de l'Allah.
C'est pas considéré comme des pertes, mais une adaptation à la génération présente.
D'accord. Mais il faut que ça soit, il faut que ça soit le Rav qui est la continuité du Sinaï. C'est-à-dire, si Moshe Rabbeinu était aujourd'hui ici, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est-à-dire mais il y a des personnes qui disent non. De quoi tu parles? Les sages, c'est des hommes. Donc, les hommes peuvent décider. Ça, c'est des personnes qui sont détachées de l'arbre de la connaissance. C'est vrai qu'il y a une différence. Comment on explique? La Torah, la guide, c'est un arbre inversé. C'est-à-dire, il y a les racines, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite, on va avoir le tronc, Moshe, il va être le tronc. Ensuite, il va avoir les branches. Ensuite, il va avoir les feuilles. Ensuite, il va avoir les fruits. Les sages d'aujourd'hui, c'est les fruits, mais c'est la continuité directe de Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand tu vois un fruit et un tronc, tu dis c'est deux choses complètement différentes. Mais non, le fruit vient du tronc. C'est pour ça que la Gemara va dire tout Talmid Chacham, c'est Nitzotz de Moshe Rabbeinu. C'est une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est la continuité de Moshe Rabbeinu. Alors, Nachon, Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas d'ascenseur à son époque. Nachon, à Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de tramway à son époque. Mais qu'est-ce qu'aurait dû Moshe Rabbeinu aujourd'hui, à notre époque? Comment il aurait dévoilé la Torah? Comment la génération est? De quelle manière il aurait fait? Est-ce qu'il est la continuité d'eux? Ou il est quelque chose en parallèle? S'il est quelque chose en parallèle, ce n'est pas Torah. C'est de la réforme, c'est de l'homme qui fait des takanot. Maintenant, qui est doté de cet esprit? Seulement celui qui est rattaché à la nation. C'est-à-dire que la nation, de la façon l'Avzil Ben Kodesh Lechol, on va prendre un poète français, on va dire lui, il exprime vraiment la France. Lui, il sait exprimer véritablement l'esprit français. Mais la même chose, ou Goethe, par exemple, il va exprimer l'esprit allemand. Par lui passe l'esprit allemand. Mais l'Avzil Ben Kodesh Lechol, ou Ben Touma, l'Avdoucha, le Talmid Chacham, c'est celui qui est investi par la nation et qui va être celui qui va continuer l'esprit de la nation d'Israël. Et nombre de Talmid Chacham étaient érudits en Torah, mais ils n'ont pas été choisis par la nation. Nous, on a le cas le plus simple de notre il n'y a pas très longtemps. Le Hafetz Chaim, il était choisi par la nation pour être celui qui porte la halakha. Pourquoi? Choisi la nation qu'elle a choisi. Parce qu'ils sont donnés par la nation. Il y a de grands poskim comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont été choisis par la nation. Alors on y va. C'est pas parce qu'ils sont grands. C'est-à-dire parce qu'ils sont grands, alors la nation les choisit. Et là, c'est la nation qui les choisit et qui passe par leur grandeur. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont porter l'esprit de la nation. Donc, on est en plus dans une période là, très Yom HaTzmaout, Yom Yerushalayim, très national, Lag BaOmer, etc. On voit les Talmidei Chachamim, plus ils sont attachés à la nation d'Israël, plus ils sont capables de transmettre l'esprit d'Israël. Voilà, on a vu là, c'était pas évident cette histoire, que quand le Rav Kanievski est Nifta, tout le Ham Israël s'est senti concerné. Alors qu'on aurait pu penser que c'est tellement, c'est Bnei Brak, c'était tellement. Communautaire, sectaire, etc. Non, vous voyez que non. Vous voyez que non. Des personnes non religieuses, religieuses se sentaient exprimées, que le Rav Kanievski exprimait la Torah de tout Israël, de n'importe qui d'Israël, de n'importe qui de la nation. Ils l'ont appelé Sarah Torah, le prince de la Torah. C'est-à-dire? Maintenant, Aristote, lui, il va utiliser, ça va être, alors d'après le Rambam, Aristote, c'était la personne qui avait le cerveau, l'intellect humain le plus développé. C'est-à-dire, maintenant, tu peux donner des notes. Platon, qui était son maître, il était au-dessus, au niveau de l'esprit. Mais, et là, on fait une différence. Platon, alors vous êtes tombé de votre chaise, ceux qui ne connaissent pas, Platon était proche de l'esprit prophétique. C'est-à-dire, il était proche de l'esprit prophétique, le Zohar parle, etc., de ces goïms qui sont arrivés proches de l'esprit prophétique. Mais Aristote, déjà, il s'est détaché de l'esprit prophétique. Aristote, c'est mamash l'exemple du scientifique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de l'au-delà. Tout commence par l'homme et se finit par l'homme. C'est-à-dire, les premiers philosophes, eux, considérer qu'il y avait une sagesse qui venait de l'extérieur et que devait s'ouvrir à cette sagesse-là. Très ressemblant à la prophétie. Et ils sont arrivés à des connaissances très, très, très profondes. C'est-à-dire, même des goïms. Mais Aristote, lui, c'est déjà une autre époque où il va se détacher de la prophétie totalement. Et c'est que lui, il fait la chose tout seul. C'est de lui, il veut essayer de... Il analyse, il comprend. Et selon sa compréhension, il va fixer les choses. Il va comprendre les choses. Et donc, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda Lévi? La première des choses, c'est qu'il est arrivé à la conclusion, au niveau de son rationnel, que le monde a toujours existé, que la matière a toujours existé. Il n'y a pas eu un moment de création. Voilà. Il n'y a pas eu. Le Haver, il dit, mais ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'eux, ils utilisent le sechel pour fixer la réalité. C'est-à-dire, ils vont analyser, ils vont dire, voilà, maintenant je fixe que le monde a toujours existé. Mais c'est toi qui as fixé. C'est quoi? C'est toi qui as fixé. C'est-à-dire, tu peux arriver à te tromper. Tu peux arriver à un doute aussi. Parce que sachez-le que le sechel, l'intellect, il va être toujours, quand il veut comprendre la réalité, il va être toujours mitor safek. Il va être toujours dans le doute. La seule chose où on est capable d'arriver à la mukhlatut, à la le mukhlat, à l'absolu, à la emuna, ça va être la prophétie, quand on reçoit la chose. Pas que nous, quand on fait des théories de. Des théories, ça va être toujours misafek. Donc, la première des choses. Aristote a un avantage énorme, c'est qu'il développe le cadeau que Hachem nous a fait, le cerveau, mais il ne l'utilise pas comme il faut. Il ne doit utiliser le cerveau qu'il y a la metziut, la prophétie, et il utilise son cerveau pour analyser ce qui a été reçu. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce qu'on a reçu de la Torah, c'est que le monde a une ex nihilo, a été créé à partir de rien, il y a une création. Et donc, il aurait dû utiliser le cerveau pour comprendre comment cette création, pourquoi cette création, de quelle manière ça a été créé, etc. Ça, c'est ce que va faire les Chachamim. Après avoir eu cette prophétie que le monde a été créé, ils vont analyser quelle est cette création, pourquoi ça a été créé, etc. Alors, regardez le texte. Maintenant, Chas v'Shalom, on n'annule pas le Sechel. On ne vient pas annuler le Sechel. Il faut faire la différence entre le sechel, l'intellect qui veut créer la metziut, et le sechel qui analyse la réalité. C'est-à-dire l'analyse qu'elle a analysée seulement. Et donc il dit, Bagadou Rachabitrila a Olam Besofo, Veaya Kachel Marchavoto, le Tsayer a Atrala. Il était très difficile, donc Rabbi Yehuda Lévi dit, il était très difficile pour Aristote de penser qu'il y a eu un commencement. Qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien, nihilo, il y avait le néant, et qu'on est sorti de ce néant-là, qu'il y a une volonté de créer. C'est-à-dire, parce que ça veut bien dire ça. Lorsqu'on parle de création, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de créer. Or, il avait du mal à comprendre ça. Kacher aya kaché gamken, à Kadmout. Mais aussi, c'était très difficile pour lui de comprendre que le monde a toujours existé. Essayez de réfléchir avec votre. Nous, on réfléchit avec notre cerveau. La matière a toujours existé, mais d'où vient cette matière? Même ça, c'est difficile de comprendre. Ce n'est pas la chose simple de comprendre que le monde a toujours existé. C'est sûr que le monde a toujours existé. C'est-à-dire que tout le temps, la matière était là. Mais d'où vient cette matière? Il y a pas. Nous, on a toujours quelque chose qui est créé, une cause et une conséquence, une cause et une conséquence. Or là, il dit non, il y a une cause première qui est la cause d'elle-même. Ar ichia kashotav, donc ces déductions-là, anotim et la kadmut, bemarshavto, dans son esprit abstrait, il est arrivé à penser l'éternité de l'univers, que la matière a toujours existé. Velora alishol al minyan sheni mishaya lefana ve'ar nitirasu bnei adam. Il n'a pas commencé à essayer de voir d'autres thèses. Vilu aya philosophe behemet ba'uma slicha sheinchal mekubalot meforsamot shenu yachol litrot otam aya mitasek bakoshotam matav larzik achibushim koshio. Par contre, s'il avait reçu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une tradition chez eux, que c'était clair, c'était évident que le monde a été créé, c'est vrai, une création, donc il aurait utilisé son sérel pour prouver ça, pour comprendre ça. Mais après une réalité, un fait, un axiome, que le monde a été créé. Amar Kuzavi, Riyesh Mofet, Bamofet Acha. Maintenant, il demande, le roi des Khazars, est-ce qu'il y a une preuve absolue que le monde a toujours existé? Et le rabbin répond, Ume Ayin Lanou Mofet Beshel Azot. Quelle est la preuve de cette question-là? Est-ce qu'on a une preuve absolue comme quoi le monde a toujours existé? Khalila. Maintenant, regardez bien une phrase très, très importante dans la différence entre le Sehel et la prophétie. Khalila la'el. Que Dieu préserve. Chez Tavo à Torah, que la Torah vienne remplacer Bemashitre Re'aya au Mofet. Que la Torah vienne remplacer des faits qui sont devant nos yeux d'une manière claire, des faits prouvés. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jamais la Torah ne peut contredire des faits évidents. Par exemple, la Torah ne peut pas dire et ne pourra jamais dire le soleil n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des religions qui sont comme ça. Ils n'acceptent pas la réalité. Par exemple, la Torah ne pourra jamais dire les dinosaures n'ont jamais existé. Quand tu as un squelette de dinosaure, tu ne peux pas dire le dinosaure ne peut pas exister. Ce n'est pas possible, une chose comme ça. C'est-à-dire, où je fais référence à l'histoire contemporaine, quand tu vois des vestiges du temple de Jérusalem, c'est-à-dire, et de toutes les manières scientifiques, on arrive que c'est la datation comme il faut, les pièces de l'époque, et qu'il n'y a aucun doute au niveau preuve concrète qu'il y a eu un temple à Jérusalem, tu as des certaines personnes, même aujourd'hui en particulier, qui refusent de dire « Non, sur le mont du temple, il n'y avait pas de temple de Jérusalem. Il n'y a pas eu de juif ici. » La Torah, ce n'est pas possible, une chose comme ça. S'il y a une preuve irréfutable, claire, la Torah ne peut pas aller à l'encontre. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle vient dévoiler, écoutez bien la phrase, le plus profond de la nature, mais il ne vient pas contredire la nature. C'est-à-dire, quand le Midrash dit « Istakel ba-Torah », il a regardé la Torah, « Ubara alma », il a créé le monde, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il ne peut pas avoir de contradiction entre la Torah et le monde, puisque c'est en regardant la Torah que le monde existait. Donc, ce n'est pas la Torah, un monde parallèle à la nature qui existe. Forcément, la nature, elle s'inscrit dans un monde que la Torah contient. Mais la Torah, elle va plus loin que ça. La Torah va plus profondément que ça. Ça, c'est sûr. Mais à aucun moment donné, il va y avoir une contradiction entre la Torah et la nature. Donc, il te dit, s'il y avait une preuve très claire, absolue, comme par exemple le feu brûle, l'eau mouille, jamais la Torah n'aurait pu aller en compte de ça. Donc toi, tu veux dire qu'Aristote, il avait une preuve claire et absolue que le monde a toujours existé? Non, il n'a pas de preuve. Pourquoi? J'avance un peu dans ce qu'il va dire. Il y a un problème au niveau scientifique. Tu peux expliquer un événement scientifique et comprendre un événement scientifique seulement s'il se répète. Et là, il s'est répété une fois, deux fois, trois fois, et là, tu peux commencer à donner des explications. Quand est-ce que ce phénomène arrive, de quelle manière il arrive, en quel moment il reviendra, etc., etc. Par exemple, une éclipse. Tu peux expliquer une éclipse parce que tu as vu une fois, deux fois, trois fois, c'est un événement qui se répète, etc. Et tu peux même prévoir dans 2000 ans dans quel moment il y aura une éclipse. Et ça, c'est le génie de l'homme et c'est la contrée. C'est-à-dire qu'il y a la réalité. Et nous, on arrive à réaliser la réalité parce qu'elle se répète, on fait des expériences, on vérifie au niveau empirique, etc. Mais la création, il était là-bas pour vérifier ça? Est-ce que Aristote était tranquillement assis le premier jour de la création, ou avant même la création, je parle même avant la création, il était tranquillement assis sur sa chaise longue, et puis Tom, et soudainement il voit Akadosh Buru, Bereshit, Vara, Elohim, Tachem, Etares, il n'était pas là. Et même si tu dis, mais non, justement, c'est ça la force du Sehel, même si tu n'es pas là, tu peux comprendre. Oui, mais ce n'est pas un événement qui s'est répété. Ce n'est pas un événement qui s'est répété dans l'histoire. Lui, c'est une hachara. Une hachara, c'est une hachara des mois, une théorie.
Une hypothèse,
une supposition, etc. Ou il rapporte des choses logiques. Mais il faut être vraiment spécial pour arriver à dire que c'est sûr. À tel point que Rabbi Yehuda Lévi dit il avait la possibilité au niveau logique, si tu parles maintenant au niveau logique, rationnel, de dire soit le monde a toujours existé, soit le monde a été créé. Il a préféré le monde a toujours existé. Mais dans les deux phases, au niveau rationnel, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dans la phase de création, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y avait rien et qu'il y a une Hachem, il a créé un monde. D'où il est venu? Et même d'où Hachem, il vient? Là, tu poses plein de questions. Mais même dans la matière a toujours existé, tu dis, mais la matière, elle vient d'où? Ce n'est pas possible une chose comme ça. Donc, au niveau rationnel, on est buté face à quelque chose de le Sehel à sa fin. Le Sehel, il peut être vrai à 99%. Mais s'il est faux, alors tout est faux. Tout le binyan, tout le bâtiment tombe. Ça a l'air. Attendez, il y a plusieurs questions. J'espère pouvoir lire les questions. Et la métallithologie, sur la première latologie, la physique, Dieu et la cause de la première mondiale. Okay. Avant, ils auraient élevé la Torah et les miracles. Ok. Rien dans nos céréales. Non, alors on y va. D'abord, lorsque nous, on parle, par exemple, et c'est pourquoi il ramène ça ici dans son texte, Rabbi Yehuda Lévi, parce qu'on a expliqué la Emouna, c'est justement avoir expérimenté les choses, vivre la chose. C'est-à-dire, on a la Emouna de sortie d'Égypte parce qu'on est sorti d'Égypte. Sur ça, il n'y a aucun doute. Ou je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on a la Emouna pendant 2000 ans, Slicha. Pendant 2000 ans, on avait certains grands Chachamim avaient la Emouna du retour d'Israël sur sa terre. On était en exil, Rachid était en exil, il était parmi les croisés, il y avait Godefroy de Bouillon qui l'empêchait de retourner en Israël, les croisades, etc. Mais lui, il était sûr et certain, peut-être pas lui, mais que le Ham Israël de nouveau retournera à Jérusalem et construira le Beth Amikdash. Ok ? Lui, il a une Emouna énorme. Nous, on avait une petite Emouna. Pourquoi ? Parce que si on avait perdu la Emouna dans la Galoute, on serait tous assimilés. Or, on a gardé cette Emouna qu'un jour, le Ham Israël reviendra. On reste Ham Israël. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, la Emouna, elle est beaucoup plus grande. On vit, on expérimente le retour du peuple juif en Eretz Israël. C'est-à-dire, tu lis les psukim de Yishayahou et tu dis que de nouveau, il y aura Zaken, des personnes âgées dans les rues de Jérusalem.
Zacharia.
Maintenant, tu te balades, mais c'est évident. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être moins de mérite de cette Emouna, mais c'est quelque chose qu'on expérimente. Une personne qui viendra me dire, mais d'où tu sais que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, de quoi tu me parles? C'est Emouna, c'est une certitude. Un autre exemple. On vit une Emouna, par exemple, de l'éternité d'Israël. Nous, on vit, quand on vit en Eretz Israël, par exemple, on est sûr qu'on ne repartira pas en Galut. C'est une Emouna dans Netzach Israël que tout ce que les Midrashim diront, il y a eu le premier, la destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple, du second temple, il n'y aura pas la destruction du troisième. C'est-à-dire le troisième retour, quand on retourne en Israël, ça sera de manière éternelle jusqu'à la construction du troisième temple et jusqu'à la fin de tout le processus. D'où on a cette Emouna? Pourquoi on n'a pas peur de l'attaque de l'Iran et de la destruction d'Israël avec tous nos ennemis? Non, on vit ça de manière émunique. Qu'est-ce que ça veut dire émunique? On vit ça, c'est achayut shelanu. On vit ça, on expérimente ça. Il y a fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses que on a difficulté à voir de l'émouna. Et ça, on le dit tous les Shabbats. Dans le kiddush, on dit le souvenir de Maaseh Vereshit, de l'œuvre de la création, et le souvenir de la sortie d'Égypte. Il y a deux mots, il y a Zikaron et Maaseh Bereshit, le souvenir de la sortie de la création, Zikaron et Maaseh Bereshit, le souvenir de l'œuvre de la création, et Zecher l'Etziat Mitzrayim, et le souvenir de la sortie d'Égypte. Maintenant, on peut faire un jeu de mots que Zikaron analyse, c'est un petit souvenir. Pourquoi c'est un petit souvenir? Pourquoi toute la Emouna est reposée sur la sortie d'Égypte? Parce que la sortie d'Égypte, on l'a vécue, la création du monde, on ne l'a pas vécue. L'homme, il a été créé, Adam Rishon, il a été créé en dernier. Nous n'avons pas vécu la création du monde. Ce que nous avons vécu, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est la base de notre Emouna, la relation qu'on a eue avec le divin qui intervient dans ce monde et qui change le monde. c'était lors de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, pour nous, c'est du me'achouz, c'est du 100%, c'est de la plus absolue. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute de ça. Au niveau de notre nation, au niveau du peuple d'Israël. Moi, en tant qu'individu, moi, je peux oublier des choses. Mais l'esprit de notre nation, qui est éternel, il a vécu la sortie d'Égypte. Il a vécu le don de la Torah. Il a vécu les 40 ans dans le désert. Il a vécu le premier temple. Il a vécu le second temple. Je n'ai pas compris la question. Et que la terre d'Israël sera vite séchée, un désert abandonné, sera habitée par Ishmael, comment sera-t-elle éternelle? Non, le retour. On sait qu'un jour, malgré tout ça, que de nouveau elle refleurira. On était sûr de ça. On avait cette émouna, le Shana Abba Birushalayim, on savait que ça allait se passer. Alors que ça paraît complètement fou. C'est irrationnel, c'est jamais passé. Mais comme ça s'est passé, oui, 70 ans d'exil de Babel, on est revenu, sorti d'Égypte, on est revenu, on sait qu'on traversera l'histoire et que de nouveau, on reviendra en Eretz Israël. Donc, vous avez fait la différence. Aristote n'était pas là lors de la création. C'est-à-dire, donc, c'est des spéculations. Or, nous, c'est-à-dire, ça aurait pu être des spéculations aussi, parce que nous aussi, on n'était pas. Mais celui qui a créé le monde nous a dévoilé par prophétie et nous a permis de comprendre ça, que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Qui a su ça? C'est très simple. Celui qui a reçu cette prophétie, comment s'appelle-t-il? Allez, comment s'appelle celui qui a reçu la prophétie de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz? Et pour le commencement, pour Eshit, pas pour le commencement, pour Réchit, pour la Torah, pour Israël, Elohim créa le ciel et la terre. Comment s'appelle celui qui a reçu cette prophétie-là? Alors, c'est
Adam Rishon.
Qu'en dirait que non. Adam Rishon n'a pas reçu ça.
Moshe Rabbeinu.
Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui a reçu ça. Tant que Moshe n'était pas là, on ne savait pas. Il y avait certains secrets que Abraham, Israël et Jacob avaient. Ça d'ailleurs. Mais c'est la Torah de Moshe. Par quoi commence la Torah de Moshe? Par Bereshit. C'est bien? Mais alors, c'est Moshe, il va recevoir ça. Mais pourquoi Moshe reçoit ça? Parce que Moshe, c'est le représentant de l'âme, c'est le canal principal de l'âme d'Israël. Donc, c'est la nation d'Israël. Le Rav Kook dira dans Roth Israël que le chidouche que va apporter le peuple d'Israël dans ce monde, c'est Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, et Haaretz. C'est la Torah. Mais c'est quoi Bereshit? Qu'il y a une volonté de créer. Il y a le divin qui a voulu créer. De là, ça entraîne plein de conséquences. Il a voulu créer. Donc, il y a un but. Et donc, Hashem, le divin, est en contact avec ce monde. Et pour réaliser son projet, c'est-à-dire, il est capable d'intervenir et de faire des miracles. Tous les miracles, ils sont explicables seulement si tu penses qui a un acte de création. Mais s'il n'y a pas d'acte de création, il y a une nature, donc les miracles n'existent pas, ne peuvent pas exister, parce qu'il y a une nature, la nature, elle est impersonnelle. Or là, on parle d'une volonté de création, il a créé une créature, il y a un projet, il y a une intervention divine dans ce monde, il y a plein de conséquences de dire que le monde a été créé. Et ça, c'est le ridouche du peuple d'Israël, que Hachem vient sur terre. Hachem, pas bien, mais se dévoile, vous savez. Hachem se dévoile sur la terre, agit dans la terre pour réaliser son projet. Et ça, c'est marqué dans le fait que le monde a été créé. Il est sorti ex nihilo, il n'y avait rien, et il a voulu. Alors que dans le monde philosophique, si tu dis que le monde a toujours existé, c'est un monde impersonnel, il n'y a pas de volonté de ce monde. Ce monde a toujours existé, il n'y a pas de volonté, on ne t'a pas voulu. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas le divin qui s'occupe de nous. D'où vient la matière? Il ne sait pas. La matière a toujours existé. On pose la question pour Aristote, d'où vient la matière? La matière n'existe pas. Platon disait qu'avec le divin, il y avait une matière supérieure. Yuli, qui à partir de là, Dieu a créé le monde. C'est un peu entre les deux. Regardez, c'est intéressant ça. Merci pour la question. Nous, on dit qu'il n'y avait rien. Et Dieu a créé, ex nihilo, yesh me'ayin, le yesh, le il y a, mais il vient du haïn, du néant. Donc, il y a une volonté de créer, il y a fait. Chez Platon, c'est déjà un autre cas. Le divin, avec le divin, il y a une matière supérieure, et un beau jour, Dieu a pris de cette matière et a créé le monde. Aristote, la matière a toujours existé. Vous avez senti la chute ? Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a que de la matière. Donc il y a une chute. Mais le chidouche de l'âme Israël, c'est de dire justement qu'il n'y avait rien. C'est impossible à penser une chose comme ça, parce que notre Israël n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour créer les choses. Et là, hein, il n'y avait rien, il y a une volonté de créer. Et donc le monde est voulu par vous. Amar HaKuzari, c'est rare. Bon, voilà, il fait référence à la fameuse matière de Platon. Maintenant, il peut penser l'homme qui a eu. Ah oui, il te dit maintenant, si un juif, il commence à penser qu'il y a eu d'autres mondes avant, c'est vrai, il peut avoir. Il y a le divin Rachim qui parle d'autres mondes, quand je crois que des mondes les a détruits. Alors peut-être il fait référence à cette matière que Platon parle. Mais même si tu parles de cette matière, avant cette matière, il n'y avait rien, il y avait un néant. Même quand Hachem va créer des mondes et va les détruire, il y a eu un tout début à tout ça. Amar HaKuzari, Daili be'ele ateanot amaspikot be'sha'arze. Ok, ça me suffit de tous les arguments que tu m'as avancés. Vim tera chevrati mecha. Atrira la rotli atanot amafsikot aval shum el gilul chadvarecha ver titrazek benafshichem adavar gadol hazeh shi'i elaboré a gufot v'orchot v'nefashot v'astralim v'amalachim asher nitali v'itkadesh v'itgadel ma'asagat astralim kol shekel mafushim chibur im abriya hazot anivze ameguna bechomra v'im nifla betzurata ki bakatom shebarimasi mipliat aprochmato ma she'en adat maseget oto. Et là, il pose une question très difficile à traduire, pas difficile, long à traduire, je vous explique. Il dit, ok, maintenant d'après vous, la Torah, d'après le judaïsme, Dieu a créé ce monde. Ce qui voudrait dire qu'il y a une intervention divine pour créer toutes les créatures. Or, une chose très très bizarre, comment Dieu, qui est le divin, l'absolu, le Akadosh Baruch Hu, qui est séparé de ce monde, etc., différent de ce monde, du monde de la matière, du monde de la nature, peut-il s'intéresser à des créatures si basses? Peut-il s'occuper de la création de fourmis et de crapauds, etc.? Comment c'est possible? Alors, c'est exactement ce que les goïms ne peuvent pas comprendre. Le Sérel n'arrive pas à accepter qu'on peut dire non seulement Marabou Maasecha Hashem, pas Marabou Ken, c'est Marabou Maasecha Hashem, que sont grandes tes œuvres Hashem. En regardant le soleil, on voit la grandeur de l'action de Hachem. En voyant les galaxies, on voit la grandeur des Maaseh Hachem. Mais le Rav Kook dira, mais de la même façon qu'on dit quelles sont grandes tes œuvres Hachem, on doit dire ma katnou Maaseh Hachem, qu'elles sont petites, c'est-à-dire qu'elles sont grandes dans leur valeur, mais même dans les petits détails que tu as créés, on voit ta grandeur, toi, Kadosh Baruch Hu. Et on dit, de la même façon que tu dois t'émerveiller devant le soleil, tu dois t'émerveiller devant une fourmi. Comment toute la sagesse divine, elle a su créer et donner vie à un être si petit. Pourquoi? Parce que ça, c'est toute la émouna d'Israël. Est-ce que les goïms ne comprennent pas parce qu'il leur manque la prophétie? Est-ce que nous, on ne peut pas expliquer comment le Ensof se dévoile dans le Sof? Comment l'infini, l'infinité divine, peut se dévoiler dans le fini, dans la matière la plus petite. Mais, bon, Hachem HaKadosh Baruch Hu nous a donné une pétard, une possibilité à comprendre. Lorsqu'ils ont découvert l'atome, lorsque la science a découvert la force de l'atome, ils ont découvert qu'il y avait une force énorme qui se cache dans les plus petites particules. C'est simple pour ce que je dis aux élèves, en général, ce n'est pas très, très précis, mais comprenez. La bombe atomique de Hiroshima, c'était 40 kilos. C'est-à-dire une tonne, c'est quand on parle d'une tonne, c'est pour la faire réagir, etc. Mais la matière d'uranium pour la fission de l'atome, c'était 40 kilos. Et à chaque fois, le Rav Zuckerman répétait ça. Ils ont découvert que quoi? Que dans ces 40 kilos, il y avait une puissance énorme. Mais d'où vient la puissance? De l'intériorité des atomes. Donc, au-delà de la matière, il y a une infinité. Il y a une infinité. Et ça, l'égoïme ne peut pas atteindre.
Rav Benisha, il est déjà là.
Rav Shavua Tov, Sorotovot.
Toda Rava, Rav.
Shavua Tov.
Rav Partouche Gadol.